Bien, bonjour tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, bénie par Dieu. Eh bien, cette semaine, je lisais le témoignage d'un ancien membre des Hells Angels, un gars de 6 pieds 4, minimum 250 livres, probablement 300, un armoire à glace gigantesque. Et puis, imaginez qu'il a fait de la prison pendant. Il était membre des Hells Angels pendant plus de 12 ans, puis il a été mis en prison. Et quelqu'un lui a présenté le Seigneur. Alors, vous pouvez imaginer, le gars qui a présenté le Seigneur, ça demandait du courage de parler de Jésus-Christ à un grand gaillard comme ça, membre des Hells Angels. Alors, tu penserais que... Yeah. Et puis, le gars, finalement, a vraiment été touché, saisi par vraiment le Seigneur. Le Seigneur a touché son cœur. Et puis, celui-ci a ouvert son cœur à Jésus-Christ. Il a changé du tout au tout, complètement changé. Si bien que lorsqu'il est sorti de prison, il s'est joint à une église et il voulait s'impliquer dans un des ministères à l'église. Une des choses à l'église, il voulait faire quelque chose pour aider la communauté. Alors voici un bonhomme de 6 pieds 4, immense, membre des Hells dans le temps, qui détruisait la communauté et que maintenant veut faire du bien et rebâtir sa communauté. Parle-moi de ça. Amen. Changé complètement par la grâce de Dieu alors que le Saint-Esprit a touché son cœur. Alors, il s'est joint à une église, il a voulu faire du bien à sa communauté. L'église en question est assez grande. Elle a plusieurs activités pour aider la communauté. D'ailleurs, ils ont plus de 100 activités dans cette église-là pour aider la communauté. Alors, imaginez un gars comme ça, 6 pieds 4, bâti, un ancien homme violent. Il a décidé, il a choisi le ministère où il allait aider la communauté. Savez-vous, c'est quoi? Vous ne devinerez jamais. Je pourrais gager 100 $, je gagnerais. Certain. Savez-vous, c'est quoi? Oui, c'est vrai, c'est pas une question de femmes abattues, certainement. Non, c'est pas ça. C'était pas ça. Toi, t'as pas le droit d'être allé au premier service. Oui, là, c'est vrai, j'aurais pas dû gager. Ouais, là, j'ai des témoins, je suis fait. Ben non, il fait du crochet. Du tricot! Imagine-toi donc, un gars de 6 pieds 4, 260 quelques livres, immense, un armoire à glace qui fait du tricot. Il s'est impliqué, il fait du crochet, puis il aime ça. Puis il s'est impliqué à faire des couvertures et des chapeaux pour des enfants malades dans les hôpitaux. Allez, imaginez. Moi, je peux vous dire une affaire, est-ce que c'est un miracle cette affaire-là? Il n'y a rien que Dieu qui a ce sens d'humour-là de pouvoir prendre quelqu'un aussi violent puis faire un gars qui fait du tricot. Ben, vous comprenez, il n'y a personne rit de lui. Hein? Un grand gars de même, ben, fais ce que tu veux dans le fond. Tu peux faire tricot ou fais ce que tu veux. Oui, c'est vrai, peut-être, il pourrait faire ça. Alors, ce qu'on veut voir ce matin, c'est justement ça, c'est ça que le Seigneur fait. Le Seigneur fait des changements, il nous change de tout au tout. Et ça s'appelle l'expérience de la nouvelle naissance. Naître deux fois, naître de nouveau. Cette expérience-là où Dieu vient dans ta vie et te change du tout au tout. Cette nouvelle naissance-là, quand tu viens à Jésus-Christ, tu donnes ta vie à Jésus. Lorsque tu te reconnais pécheur et que tu dis à Jésus, « Moi, j'ai besoin de toi pour me sauver et avoir la vie éternelle. Moi, je crois que tu es allé à la croix prendre ma place. C'est moi qui devais être là, mais tu as pris ma place. Tu as quitté le ciel, puis tu as pris ma place à la croix. » Lorsque tu places ta foi en Jésus, tu demandes, dans le fond, à Jésus de t'accepter. Il y a bien des gens qui disent « Accepte Jésus comme ton sauveur », mais en même temps, dans le fond, c'est plutôt Jésus qui t'accepte. Tu demandes à Jésus de t'accepter, dans le fond, puis de demander pardon pour toutes les fautes que tu as faites. À ce moment-là, il y a un miracle, la Bible appelle la nouvelle naissance. Et là, on va voir un passage, justement, dans la lettre de Paul à Tite, où il parle que ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Cette renaissance-là, c'est vraiment l'œuvre de l'Esprit. Donc, tournez avec moi dans Tite, si vous voulez bien. Courte lettre. Et comme on dit souvent, si toutefois vous n'avez pas de Bible, vous pouvez lever la main. Les placeurs en arrière vont se faire un plaisir de venir vous emporter une. Alors, Tite, chapitre 3, verset 1. On va commencer au verset 1 ce matin, notre lecture, d'accord? Tite 3, verset 1. Alors, voici ce que dit la parole de Dieu. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Eh bien, nous continuons notre série sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. On a commencé une série dernièrement, justement, sur l'Esprit-Saint. Premier message, on regardait c'est qui l'Esprit. Et on a vu que l'Esprit est le Consolateur, le grand Consolateur. Le Saint-Esprit nous est envoyé dans nos vies lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Il est ton avocat. C'est le terme plus exact d'ailleurs. Il est le consolateur, mais qui a ce rôle-là d'être avocat, de t'accompagner, d'être toujours avec toi, de plaider pour toi. Il prend ta cause à cœur. Il est celui qui est le plus loyal envers toi. C'est ton meilleur ami. Il est pour toi. Ça, c'était le premier message. Et l'incidence pour nous de savoir ça, c'est que nous voulons à notre tour aimer le Seigneur en gardant sa parole, sachant que le Saint-Esprit est toujours avec nous pour nous aider. C'est son rôle. Il veut nous accompagner. Il veut nous aider. Dans le deuxième message, on a appris que l'Esprit-Saint est non seulement le Consolateur, mais il est aussi l'Esprit de vérité. Il corrige l'erreur, il convainc. Tous ces mensonges qu'on peut entretenir, cette cassette-là, ce CD qui se promène dans notre cerveau, avec ces mensonges qu'on entretient, ces pensées erronées qu'on a besoin de corriger et que la parole de Dieu vient corriger. Ça, c'est le rôle de l'Esprit, toutes ces erreurs. La première erreur vient corriger, c'est qu'on n'a pas besoin de Jésus-Christ, qu'on n'a pas besoin de Dieu. C'est un mensonge ça, qu'on entretient pendant des années avant de venir à Jésus-Christ. De dire qu'on n'a pas besoin de Dieu, on est trop, ah non, pas besoin de ça, moi c'est une béquille pour les faibles. Et tous ces mensonges-là, dans le fond, que l'on peut entretenir dans notre cerveau. Et ça, c'est le rôle de l'Esprit de nous convaincre de notre besoin d'avoir Jésus dans notre vie. C'est son rôle, il est l'Esprit de vérité. Et il veut remplacer, renouveler notre intelligence pour que nous puissions penser de plus en plus de façon correcte et selon les Écritures. C'est son rôle. Une fois éclairé, l'incidence que cela a sur nous, de savoir ça, que l'Esprit est l'Esprit de vérité, c'est qu'une fois éclairé, nous voulons maintenant partager la beauté de l'Évangile, sachant que l'Esprit-Saint va toucher les cœurs. C'est son rôle, il touche les cœurs. Troisième message que notre frère Alex nous a donné, c'est dans Jean 16 où l'Esprit convainc. Il a un rôle de conviction, de nous conduire et de glorifier Jésus-Christ. Le rôle de l'Esprit est vraiment de braquer les projecteurs sur Christ et élever Jésus dans nos cœurs, de vouloir en nous inspirer l'adoration pour Jésus et toujours dévoiler, nous faire connaître davantage à mesure qu'on s'expose aux Écritures, de mieux connaître Jésus. Il veut élever Jésus dans nos cœurs et c'est le rôle de l'Esprit. Et l'incidence sur nous, c'est que nous voulons donc, comme enfants de Dieu, glorifier le Seigneur en nous laissant convaincre et conduire par le Saint-Esprit. C'est le vœu et la prière de l'apôtre Paul de ne rien faire dans sa vie qui allait entraver ou ralentir l'œuvre de l'Esprit dans sa vie. Il voulait magnifier Jésus. Un terme qui veut dire qu'il ne veut rien faire qui pourrait diminuer la puissance de transformation du Saint-Esprit dans notre vie. Alors aujourd'hui, nous verrons ce que l'Esprit... Un autre aspect, un autre volet du ministère de l'Esprit, c'est de nous changer. C'est l'Esprit-Saint qui nous fait renaître. C'est lui qui nous fait renaître en Dieu. Cette nouvelle vie-là, c'est lui qui opère ça. C'est l'opération du Saint-Esprit de prendre la parole de Dieu. Et lorsque une personne répond avec foi à Christ, l'Esprit-Saint fait de lui une nouvelle naissance. Alors, une fois dans notre vie, l'Esprit prend la parole de Dieu et la rend efficace dans notre vie. Alors, c'est lui qui produit en nous cette nouvelle naissance que la Bible appelle aussi « naître d'esprit ». Et ça, c'est vraiment le rôle de l'Esprit-Saint. Où lorsqu'on vient à Jésus-Christ, notre vie devient plus significative. Notre vie est complètement affectée par la nouvelle spirituelle, la nouvelle naissance spirituelle que donne le Saint-Esprit. Et l'une des choses qu'il va changer en nous, c'est notre façon de nous conduire avec notre prochain. Ça a un impact dans nos relations autour de nous. Et c'est le rôle de l'Esprit. Le passage qu'on vient de lire s'adresse premièrement, évidemment, aux chrétiens de Crète, une petite île de la Méditerranée qui faisait partie de l'Empire romain. Mais le message s'adresse également à nous, à chacun d'entre nous. Et le passage va répondre à deux questions. Maintenant qu'on est chrétien, comment allons-nous nous conduire avec les non-croyants? Puis pourquoi le faire? Pourquoi suivre ce message-là et changer? Alors, comment se conduire avec notre entourage? Comment se conduire avec le gouvernement, par exemple? Avec nos voisins? Avec les non-croyants? Et comment se conduire avec les gens qui peuvent peut-être être hostiles parfois? Ça arrive. Et pourquoi agir comme ça? Donc, on regarde la première question que le passage va répondre. Comment se conduire avec les non-croyants? Et verset 1, verset 2, dit ceci. Paul, en fond, essentiellement, ce que Paul dit, c'est que nous sommes appelés à faire du bien autour de nous autres. Paul nous exhorte à démontrer une bonne attitude envers les gens qui nous entourent. Et ça commence d'abord avec le gouvernement. Et c'est ça que ça dit au verset 1 et verset 2. Rappel aux chrétiens. Alors, ce que Paul est en train de faire, il est en train de s'adresser à Tite, qui est un des ouvriers qui s'occupe de l'Église de Crète. Il dit, rappel aux gens de l'Église. Alors, c'est pour ça que le message est vraiment pour nous. Il dit, rappel aux gens de l'Église d'être soumis aux magistrats. Une autre façon de dire, qu'ils se soumettent au gouvernement. Alors, rappel aux chrétiens d'être soumis au gouvernement, aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Voyez-vous, les gens de la ville, les chrétiens de la ville de Crète ont changé de sauveur. Parce qu'avant, comme citoyen de l'Empire romain, ton sauveur, c'était César. Eux ont changé de sauveur. Parce que dans cette ville, les villes de Crète, les citoyens considéraient César comme leur sauveur. Et on en faisait la promotion aussi. C'est ce que les gens en autorité au gouvernement moussaient. Ils poussaient les gens à reconnaître César comme le bon sauveur, le grand sauveur, le rédempteur. Parce qu'il faisait justement partie de l'Empire romain. Alors, Paul se sert de cette expression-là en appelant Jésus comme sauveur. Il crée toute une onde de choc parce qu'il risquait même d'être exécuté. Parce que c'est qui t'appelait sauveur, c'était César. Ça pouvait provoquer en quelque sorte des dissensions parmi les citoyens de la ville et certainement le faire exécuter. Mais il appelle Jésus le sauveur. Verset 4, il dit « Lorsque la bonté de Dieu, notre sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. » Maintenant, ça ne semble pas très impressionnant pour nous qui vivons en 2013, mais pour des gens du premier siècle, alors que qu'ils étaient au sommet de l'Empire, au milieu du premier siècle, à Crète, cette déclaration de l'apôtre Paul, c'est vraiment une déclaration choc. Et parce que César était le sauveur des citoyens. Tu n'avais pas le choix. Il te fallait reconnaître César comme le grand sauveur. Sauveur était même le titre que l'on donnait, que l'on affixait à César, parce qu'on le qualifiait comme le sauveur du monde, le rédempteur. On le voyait d'ailleurs même comme faisant partie des dieux à Rome. Et les autorités romaines travaillaient très fort pour répandre cette vision de César. D'ailleurs, ce qu'ils faisaient, un peu comme Twitter et Facebook aujourd'hui, dans ce temps-là, ce qu'ils faisaient, ils faisaient des inscriptions sur des monuments en plâtre et les installaient partout à travers l'Empire, des inscriptions qu'on lisait, qui nous rappelaient que César était le sauveur. Une inscription comme celle-ci que je vais vous lire, qu'on a trouvée. Parlant de César Auguste, c'était écrit, « La providence qui dispose divinement notre vie a comblé cet homme pour le salut des hommes, de ses dons pour l'envoyer à nous et aux générations futures comme sauveur. » Le Sénat romain avait donc conféré à l'empereur César le titre d'Auguste, l'adorable, celui qu'on doit adorer. Alors, lorsque Paul appelle Jésus le sauveur, c'est toute une déclaration. Il se mouille, c'est une profession de foi qu'il fait, il le déclare. Et c'est quelque chose qui a fait tuer Jésus, n'oublions pas, hein, c'est ce qui a fait tuer Jésus. Pendant le procès de Jésus, les Juifs ont convaincu Pilate que Jésus allait renverser le gouvernement et qu'il était contre César. D'ailleurs, lorsque Pilate a fait amener Jésus, Pilate dit aux sacrificateurs juifs, « Voici votre roi, le roi des Juifs. » Et le souverain sacrificateur, le chef, a dit, « Non, nous n'avons qu'un seul roi et c'est toi, César. » Mais certaines personnes à Crète se sont tournées vers Jésus-Christ. Ils l'ont reconnu comme leur sauveur personnel. Ils ont reconnu que Jésus était le vrai sauveur. Alors, quoi faire maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Si César n'est pas le vrai sauveur Et Jésus est le vrai sauveur. Que faire avec César? Comment tu agis? Quelle est ton attitude à l'endroit du gouvernement? Comment un chrétien doit-il se conduire avec le gouvernement? Surtout si celui-ci a une mauvaise réputation. Comment agir avec les non-croyants qui ont des valeurs tout à fait différentes de nous? Puis c'est facile de glisser dans le jugement. Moi, je me rappelle lorsque je suis venu au Seigneur, j'étais bien content, tout ça, j'étais excité, j'ai parlé à mes amis et tout ça. Et il y a des amis qui ont refusé l'Évangile et tout ça, et j'ai tombé comme dans un mode de jugement. Je regardais ces gens-là comme avec un air hautain, je me disais, voyons, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont pas d'allure, ces gens-là, etc. Sans réaliser que dans le fond, moi j'étais là, là. J'étais là, et c'est par la grâce de Dieu que Dieu change nos cœurs. Alors, le Seigneur répond, et Paul répond, il dit, non, non, ton attitude doit être une attitude de respect, de bonté. Tu dois faire du bien avec ceux, envers ceux qui t'entourent. Paul va l'exprimer comme ceci au verset 1. Il dit, soyez soumis, en d'autres mots, soyez respectueux et soumis aux magistrats et aux autorités, obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. En d'autres mots, même si notre allégeance a changé, dit Paul, on doit rester loyal à César et au gouvernement. Tu es loyal à l'ultime sauveur, Jésus-Christ, tout en restant loyal au gouvernement. Et comment ça se concrétise au quotidien? Ça veut dire quoi, ça, être loyal au gouvernement? Bien, Paul dit, sois créatif. Et sa façon de le dire, c'est, soyez créatif au point de dépasser la loyauté et la conduite des autres citoyens. Sois meilleur, dans le fond. Agis avec beaucoup de bonté et sois un beau témoignage dans ton environnement, dans ton coin. Fais du bien à ta ville. Maintenant, faire du bien à sa ville, ça ne veut pas dire, tu sais, quand on dit, moi, je suis un bon voisin, je suis tranquille. Les gens vont toujours dire ça, hein? Vous demandez, c'est quoi être un bon voisin? La personne va dire, ah, mais moi, je ne fais pas de trouble. Je suis tranquille, personne ne m'entend. Bien, Paul est en train de dire, non, 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 il faut que les gens t'entendent. Fais quelque chose, implique-toi, mouille-toi, puis qu'on entende parler de toi et des choses que tu fais. C'est pas juste d'être tranquille. Sois proactif, implique-toi. Sois meilleur même que d'être tranquille. Fais des bonnes choses autour de toi. Fais des bonnes affaires. Améliore ta ville. Fais quelque chose de bien. Alors, le chrétien est appelé à faire du bien à sa communauté. Et pour nous, ce que ça veut dire, qui vivons ici, c'est soyons les meilleurs citoyens de Gatineau. C'est ça, concrètement, c'est en train de nous dire. Là. Faisons du bien à notre ville. Certaines personnes vont dire le meilleur moyen d'aimer notre ville et de faire du bien à notre ville, c'est de présenter l'Évangile. C'est ça que les gens ont besoin, du salut en Jésus-Christ. Et c'est tout à fait vrai. Si tu parles de priorité et de mission d'Église, c'est au top. Si tu veux faire des disciples, la mission de l'Église, c'est de faire des disciples. Matthieu 28, hein, Jésus l'a dit, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, partout dans le monde, là, faites des disciples. Ça, c'est la mission de l'Église. D'accord? Mais en même temps, et d'ailleurs, il faut se rappeler que les gens ont effectivement besoin de l'Évangile. C'est la meilleure façon d'aimer les gens et d'aimer ton prochain, c'est de leur présenter l'Évangile. On est tout à fait d'accord avec ça. Absolument. Et ce n'est pas juste de faire du bien. Ça, c'est une erreur que bien des églises peuvent faire. Ils font juste du bien. Non, ça, c'est une erreur. C'est un déséquilibre parce qu'il faut absolument donner le message. Ce n'est pas juste de faire du bien. C'est de donner l'Évangile aux gens. Et c'est ça que les gens ont vraiment besoin. Alors ça, c'est une erreur que les gens vont dire ici au Québec. Ils vont dire, bien, ce qui compte dans le fond, c'est que tu aimes ton prochain. Et pour eux, aimer son prochain, c'est juste de faire du bien. Mais parle-moi pas, surtout pas de la Bible et la parole de Dieu. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu cet article hier de Stéphane Laporte dans La Presse. Je ne sais pas si vous recevez La Presse, mais Stéphane Laporte, qui est réputé pour être ironique, et il y a plusieurs passages dans La Presse en ce moment. Hier, en tout cas, ils ont réservé plusieurs sections dans La Presse parce que, grand événement au Québec, la démission du pape. Un pape qui démissionne, ça fait 600 ans qu'il n'a pas démissionné le pape. Est-ce qu'un pape peut démissionner? Et là, ça crée tout un émoi, il démissionne, puis là, c'est le temps de changer de pape, qui qu'on va choisir? Alors là, Stéphane Laporte, il y a plusieurs commentaires dans La Presse d'hier, mais celui, la rubrique, l'article de Stéphane Laporte, laissez-moi vous lire. Je ne vais pas tout vous la lire, mais je vais juste lire une petite section. Et voici sa pensée qui reflète très bien la mentalité québécoise, c'est quoi aimer son prochain. Voici ce qu'il dit. Il dit, le prochain pape doit revenir à l'enseignement de Jésus. Bien, jusqu'ici, ça va bien. Hein? Super. Ah oui, parce que vous savez ce que c'est. Hein? On tombe dans les traditions, puis ça, puis le catholicisme, beaucoup de traditions. Puis pourquoi ne pas revenir à la parole de Dieu, revenir à l'essentiel? Ah, bien, Stéphane Laporte, lui, va qualifier ce que ça veut dire que de revenir aux enseignements de Jésus. Voici ce qu'il va dire. Il va dire, le prochain pape doit revenir à l'enseignement de Jésus. un prophète, il décrit Jésus, un prophète tolérant et ouvert, dont la doctrine se résume en une phrase, « Aimez-vous les uns les autres. » D'accord? C'est ça le rôle de l'Église, dit Stéphane. C'est ça le rôle de l'Église. C'est ça le rôle du pape. Nous aider à nous aimer les uns les autres. Car on a besoin d'aide. Mais on n'a pas de besoin de menaces ni de jugements. Juste de se faire rappeler ce qu'on oublie trop souvent. On est plus heureux quand on est bon. Bon comme dans la bonté. Et là, je ne vous lis pas tout l'article, mais lui, il est contre les enseignements de l'Église, etc., les différentes choses. Là, il cite quelques exemples très pratiques. Ça, en d'autres mots, ce qu'il dit, c'est que moi, faire du bien à ceux qui nous entourent, parfait, c'est ça, aimer son prochain. Mais il n'y a pas de message en arrière de ça. Il n'y a pas d'évangile dans ça. Il n'y a pas la parole de Dieu. Et Jésus a dit dans Jean 17 que la parole de Dieu, c'est ça la vérité. Et la vérité dit ceci. Dans 1 Corinthiens 13, dit que l'amour, aimer son prochain, l'amour, il décrit l'amour dans 1 Corinthiens 13, c'est le passage qu'on lit toujours au mariage, presque, hein, 8 fois sur 10, c'est tellement un beau passage qui décrit tellement bien l'amour dans 1 Corinthiens 13. Mais c'est écrit enfoui, il y a toute une perle incroyable dans 1 Corinthiens 13, lorsqu'on décrit l'amour, puis ça va dire ceci, l'amour se réjouit de la vérité. C'est ça l'amour aussi. Là. L'amour, tu ne peux pas divorcer l'amour en disant c'est juste faire du bien. Et la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu. Mais ceci étant dit, ça c'est un message pour les Québécois, que l'amour de son prochain inclut, c'est majeur. Parce que ce n'est pas aimer son prochain de lui contrer des menteries en lui faisant croire que tout le monde est correct, tout le monde est beau, puis il n'y a pas de problème. Non, ça c'est pas vrai, ça. C'est pas ce que les Écritures disent. Mais ceci étant dit, là on va aller à l'autre côté du spectre. Là. Ceci étant dit, aimer son prochain inclut aussi faire du bien à notre prochain. Ça l'inclut aussi. Et laissez-moi vous le prouver dans le passage qu'on est en train de lire, justement, dans Tite, parce que c'est ça que ça dit. Voici ce que Paul dit au verset 1, « D'être prêt à toute bonne œuvre. » Ça parle de quoi, ça? Ça ne parle pas juste de présenter l'Évangile. Ça comprend aussi faire du bien à notre entourage, à toutes sortes de bonnes œuvres. Et même l'apôtre Paul ne le limite pas au gouvernement, il va beaucoup plus loin parce qu'il va même dire que c'est à tous les hommes, donc ça s'adresse à tout le monde, on veut faire du bien à tout le monde. Maintenant, Kevin DeYoung, qui a écrit un bon livre qui s'intitule « Quelle est la mission de l'Église? » fait un beau travail avec Lévitique 19, puis il va faire ressortir 5 aspects sur la façon d'aimer son prochain. Il trouve un bel équilibre, et voici ce qu'il dit dans Lévitique 19. Il dit, aimer son prochain, c'est de les aimer avec nos biens. Alors, Lévitique 19, verset 9 à 10. Aimer son prochain, c'est les aimer avec nos paroles aussi. Il y a un message, verset 11 et 12. Aimer son prochain, c'est les aimer dans nos actions, verset 13 et 14. Aimer son prochain, c'est les aimer dans nos jugements, la façon de juger. Versets 15 et 16, et aimer notre prochain, c'est les aimer avec une belle attitude. Versets 17 et 18. Ça comprend 5 volets, aimer son prochain. Pas juste un. En d'autres mots, aimer son prochain, c'est donc partager, dire la vérité, ne pas prendre avantage des faibles, être juste. Ça comprend 5 aspects, aimer son prochain. Et présenter l'Évangile est la meilleure façon d'aimer son prochain, mais aussi il y a d'autres aspects à aimer son prochain. On les aime différemment. Et alors, lorsqu'on fait du bien à notre prochain, c'est une façon de les aimer. C'est un des aspects qu'on les aime. Alors, aimer son prochain, c'est faire du bien et donner la parole de Dieu. Alors, on veut faire toutes sortes de bonnes œuvres. On veut faire des belles choses pour notre voisinage, pour notre famille, pour la ville. Et ça s'adresse à tout le monde. Comme le dit Paul dans le verset 2, il dit de ne pas médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Ça l'englobe tous les hommes. Alors, quand ta vie change et tu comprends un peu plus la parole de Dieu, tu veux absolument commencer à intervenir et essayer de changer ton monde pour le bien. Maintenant, c'est facile de commencer à juger quand, vous savez, et c'est probablement ce qui s'est passé avec les habitants, les citoyens de Crète. On peut devenir un peu hautain envers les autres qui ne pensent pas comme nous, peut-être même qui sont hostiles à l'égard Des fois, il y a des gens, quand ils te critiquent, tu présentes l'Évangile, puis commencent à te critiquer, puis dire, ah, ça, c'est juste pour les faibles, blablabla. Moi, je me suis fait dire ça à un moment donné. Puis il y avait quelque chose en moi qui devenait un petit peu agressif. Ah, ça, la foi. Imagine-toi, tu dis ça en pleine face. Là. Quelqu'un, tu dis ça en pleine face. Là. Puis il dit, ah, la foi, c'est pour des gens qui sont faibles, qui ont besoin de béquilles. Là, tu es là, tu dis, je te montre, moi, j'ai pas de béquilles. Là. Tout ton orgueil en mange un coup. Comment tu réagis face à ça? Et il y a le problème qu'on glisse là-dedans. Alors, Paul veut nous corriger, veut nous reprendre. Et surtout, c'était vrai pour Crète, en passant. Les habitants de Crète avaient la réputation d'être des grands menteurs. Imagine-toi donc, ta ville a la réputation. C'est une gang de menteurs, là-bas. Et ça, c'est dur à défaire, là. C'est toute une affaire. Il y avait toute une réputation. Et pas juste ça, là. Ils étaient avares, ils avaient la réputation d'être centrés sur eux-mêmes, ils n'étaient pas respectables, ils n'avaient pas la réputation de promouvoir la moralité. C'était facile de regarder les gens de Crète avec un peu mépris, là. Ça ne prenait pas grand-chose. Mais vois-tu, Paul est en train de les reprendre, il dit « Non, il ne faut pas que tu sois comme ça. » Paul dit « Soyez prêts à faire toutes sortes de bonnes œuvres, faire du bien, même aux personnes détestables. » En d'autres mots, que les vertus de Jésus soient si réelles dans ta vie qu'elle va affecter le monde autour de toi. Et lorsque les citoyens de la ville te regardent, ils peuvent dire que toi, tu deviens un peu comme un modèle de citoyen, que les gens te regardent et ils disent, tiens, moi, c'est le genre de citoyen que je veux devenir. Ça, c'est le genre de bonhomme que je veux devenir, le genre de bonne femme que je veux devenir. Quel citoyen? C'est un modèle de citoyen. Un citoyen qui cherche à faire le bien, qui pratique la justice, qui est humble et qui cherche à réconcilier. C'est la réputation. D'autres mots, soit meilleur que. Moi, je travaillais comme vendeur, comme représentant. Vous savez, c'est quoi la réputation des vendeurs? Hey, mon ami. Hey, les gars, des clients qui arrivaient, ils me regardaient, je rentrais dans le magasin. Hey, toi, tu es un bon vendeur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tu es un bon menteur. Il dit, parce qu'un bon vendeur, c'est un bon menteur. Hey, moi, je rentrais dans un magasin, les gens me voyaient avec une grosse étiquette, là. Mais les gens m'attendaient parce que c'était quand même grossiste. Fait que j'entrais dans les magasins, le propriétaire avait besoin de mon produit, puis tout ça. Mais quand même, tu rentres, tu sais, puis tu montes tes produits, puis tout ça, puis tu as à peu près 12, 13 vendeurs en avant de toi. Là, il va dire, bon, le propriétaire dit, quelle chanson tu vas me compter, là? T'es le meilleur, tes produits sont meilleurs. Puis, qu'est-ce que tu vas me compter comme chanson, là? Eh, mon ami. Comme enfant de Dieu, tu sais, j'étais toujours en train de prier, demander au Seigneur, Seigneur, je veux être un beau témoignage. Je veux faire mon travail. Tu sais, mais en même temps, je veux, il y a quelque chose à casser. Je veux briser le moule. Je veux sortir du moule puis que les gens disent, hey, OK, il y a des bons vendeurs. Il y a des vendeurs qui ne sont pas menteurs. Ça existe! Ça existe! Et ça, c'était ma prière. Seigneur, donne-moi de vraiment pouvoir avoir un témoignage. Puis je réussissais pas tout le temps, évidemment. On reste humain. Mais le Seigneur t'invite, dit, garde, fais du bien autour de toi, implique-toi. Voilà comment se conduire. Voilà comment se conduire avec les gens qui nous entourent. On veut faire du bien, on veut améliorer notre communauté. Et ce qui nous motive, notre motivation, et ça répond à la deuxième question, dans le fond, pourquoi faire ça? On est tellement occupé, on est tellement pressé aujourd'hui, on est tellement de misère à gérer nos calendriers. Mon ami, il y a des affaires à faire. Mais pourquoi se donner la peine? Pourquoi faire ce surplus, cet effort? Bien, Paul répond à ça. C'est parce que le Saint-Esprit nous a changés, complètement changés. Pourquoi faire du bien dans ma ville et à ceux qui m'entourent? Parce que l'Esprit-Saint est venu puis est intervenu. Puis moi, je faisais partie de cette gang-là. J'étais là, moi, avant. J'étais comme ça. Et c'est le point ici. Nous étions pécheurs. Paul est en train de dire au verset 3, nous aussi, on était là, on était comme ça. Nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égaré, asservi à toute espèce de convoitise puis de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haï et nous haïssant les uns les autres. On était là, nous autres. Même des fois, hein? Ça revient des fois, la vieille nature des fois. Mais Paul est en train de dire, regarde, c'est là qu'on était. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais un jour, le Saint-Esprit t'a agrippé. Il est venu te chercher, le Saint-Esprit, mon ami, puis t'a dérangé. Il a changé ton horaire, là. Il est venu chercher, il a touché à la porte de ton cœur, puis il a commencé à te montrer Jésus-Christ. Tu avais besoin de Jésus-Christ, tu étais un pécheur, et tu étais vraiment perdu sans Jésus. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça. C'est pas grâce à toi. Et c'est ça que Paul continue en disant, on a été sauvés uniquement par la grâce de Dieu. C'est pas parce que tu étais bon, mon ami. Puis verset 4, il dit, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Lorsque Paul parle de l'amour de Dieu pour tous les hommes, il sert d'un mot pas mal intéressant ici. On est habitué de connaître, on a entendu des mots là, comme il y a des mots agapé. On parle de l'amour agapé. Vous savez, en français, on parle toujours de l'amour. On aime, on s'aime, et que tu peux dire « j'aime ma voiture », puis tu peux dire à ta femme « je t'aime ». Puis il n'y a pas grande différence dans le mot. Ça ne fait pas grande différence. Mais dans le grec, il y avait différents mots qui mettaient l'accent sur différentes choses. Il ne faut pas pousser à l'extrême ces distinctions-là, mais il y avait quand même une petite nuance. Et on pouvait dire, bien, j'aime agapé. Ça, c'est ce genre de mot probablement que tu prendrais pour ta femme. Et les deux autres aussi. Tu avais philéo, qui est un ami, amitié. Puis tu avais le mot eros, c'est pas besoin de décrire ça, on sait ce que c'est. Mais tu avais un autre mot aussi, un mot assez rare dans les Écritures. On ne s'en sert pas souvent. D'ailleurs, on s'en sert juste deux fois. Une fois seulement sous la plume de Paul, c'est le mot philanthrope, philanthropie, l'amour philanthropique. Regardez bien le verset. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour, l'amour ici, l'amour, c'est l'amour amour philanthropique. L'amour qui est composé de deux mots, dans le fond. Philéo, qui est l'amour, amitié, l'amour, et anthropos, qui veut dire les hommes, les êtres humains. Alors, c'est celui qui aime les êtres humains. Et c'est comme ça que Paul va décrire Dieu de cette façon-là. Et c'est avec raison, parce qu'on attribuait César, un grand philanthrope. Et ce n'est pas par hasard ici que Paul choisit ce mot-là, par exprès. Donc, littéralement, c'est comme si on traduisait le verset, « Lorsque la bonté et le Dieu philanthrope s'est manifesté, il nous a sauvés. » Maintenant, le Dieu philanthrope. C'est intéressant parce que la ville de Crète faisait partie de l'Empire romain, comme on l'a dit tantôt. C'est une île de la Méditerranée. Et Crète a été conquise plusieurs fois. Elle a été conquise une fois, après ça a été conquise une autre fois par un autre pays, conquise et reconquise. Et finalement, pour aboutir entre les mains de César, entre les mains de Rome. Et c'était avantageux de faire partie de l'Empire romain. Il y avait plusieurs avantages, il y avait des exemptions de taxes et tout ça, plusieurs privilèges. Et un des avantages que l'on pouvait, dont on jouissait, c'était le Pax Romana, qui veut dire la paix romaine. En d'autres mots, le fait de faire partie de l'Empire romain, comme citoyen romain, tu étais assuré d'avoir la protection et la paix, de vivre en paix dans ton pays et dans ton village. Donc, tu jouissais de cette paix-là, la paix romaine. Alors, Crète profitait maintenant de cette paix romaine et un paquet d'autres avantages. Maintenant, le visage de César se retrouvait partout, sur les pièces de monnaie, tout ça, sur les monuments. On mettait son visage partout et la raison est bien simple, c'était pour te rappeler c'était qui était le boss, qui était le propriétaire et qui faisait les belles choses. Donc, en d'autres mots, lorsque ta ville commençait à faire des routes, des belles routes, faisait des améliorations, lorsqu'elle emmenait des aqueducs près des maisons, lorsqu'elle bâtissait des bains publics, parce que les gens n'avaient pas de bains, alors lorsqu'ils construisaient des bains publics pour permettre aux gens de pouvoir se laver, etc., ce qu'ils voulaient, ce que le gouvernement voulait, c'est que tu finalement donnes gloire à César et que tu puisses dire, « Ah, quel philanthrope, quel homme généreux qu'est César. » Il veut t'emmener là, donner toute la gloire à César. Mais Paul, ce qu'il est en train de faire, c'est en appelant Dieu philanthrope, ce que Paul rappelle, c'est que l'événement le plus philanthropique de l'histoire que le monde ait jamais connu, la plus grande manifestation de l'amour pour l'humanité, s'est vraiment manifestée avec Jésus-Christ, à la croix, lorsqu'il s'est offert à la croix pour prendre notre place. L'amour de Dieu pour l'humanité, l'amour de Dieu pour les habitants de Crète, l'amour de Dieu pour vous et moi, est la plus grande expression de cet amour. La plus grande expression de cet amour a été manifestée vraiment avec la mort de Jésus-Christ. Alors nous étions pécheurs, on était là, et Dieu a manifesté le plus grand geste philanthropique inimaginable en voyant son Fils Jésus prendre notre place à la croix pour nous sauver. Alors nous sommes maintenant, quand tu viens Jésus-Christ, nous sommes maintenant changés. Nous sommes maintenant une nouvelle créature. Et c'est ce que Paul dit au verset 5. Nous avons été régénérés et justifiés par le Saint-Esprit. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le bain de la régénération, le mot régénérer, nouvelle naissance, ça veut dire littéralement renaître, revenir, renaître. Dans la Bible français courant, on va la traduire ainsi, naître à une vie nouvelle. La Tob va le traduire par le bain de la nouvelle naissance et de la rénovation que produit le Saint-Esprit. Quelqu'un a dit, pour réinventer sa vie, il faut se défaire de son passé. Le Seigneur nous dit ici, bien le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait. Le Saint-Esprit est une puissance tellement puissante qu'il efface ton passé. Vraiment effacer ton passé. Il réinvente ta vie. Il te défait ton passé et toutes les souillures, les choses que tu as pu faire, les gaffes que tu as pu faire dans ton passé. Moi, j'en ai fait pas mal dans ma jeunesse. Il y a bien des affaires même qui me font honte. Juste les raconter, j'ose même pas les raconter, j'en ai honte. Mais c'est-tu pas merveilleux de savoir que le Saint-Esprit efface tout ça? Complètement effacé, c'est fini cela. Aucune tâche ne peut rester collée à ton cœur. Aucune pensée, aucun geste ne résiste à la puissance transformatrice de l'Esprit-Saint. On a été purifié, changé, on a une nouvelle identité. Imagine-toi donc ton passé qui est toutes les mauvaises choses que tu as pu faire, ou pensées même, sont effacées. C'est vraiment intéressant, il y avait un article dans le New York Times qui s'intitulait « La fin de l'oubli ». L'article raconte comment toutes les photos qu'on peut mettre sur Facebook et tout ça, les blogs qu'on peut écrire, Twitter et tout ça, c'est rendu qu'on est rendu dans l'ère de l'information où il n'y a plus de secret. Et pas juste ça, l'article dit « On ne peut plus oublier aujourd'hui ». Toutes ces photos-là que tu as mises sont à quelque part dans le réseau et ça va te suivre pour le restant de ta vie. C'est la raison pour laquelle l'article dit « C'est la fin de l'oubli ». On n'oublie plus maintenant, il n'y a plus de bouton supprimé. Et l'article de New York Times conclut en disant ceci, vraiment intéressant, il dit « Une société où tout est enregistré » ne nous permettra plus de fuir nos actions passées, si bien qu'il sera maintenant plus difficile de pardonner. Et ça, c'est fort. On va avoir la misère dans le futur, dans l'avenir, à pardonner. Ça va être encore plus dur, parce que ton passé te suit. Alors, nous avons tous un passé, et on a tous des choses qu'on a commises qu'on regrette. Mais ce que Paul est en train de dire, c'est que lorsque l'Esprit-Saint vient dans ta vie, il délite. Il supprime toutes ces mauvaises choses dans le passé. C'est ce que dit Ésaïe 43, 25, où il est écrit, « C'est moi qui efface tes transgressions et je ne me souviendrai plus jamais de tes péchés. » Tu as une nouvelle identité, une nouvelle famille qui est l'Église, où vous n'êtes plus condamné. Le Saint-Esprit nous a agrippés, il ne nous laissera pas tranquille. Il ne laissera pas tout seul. Le Saint-Esprit va agir dans nos vies, va nous aider à grandir. Nous avons une nouvelle nature, un nouveau cœur. D'ailleurs, c'est ça que dit 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, le Saint-Esprit nous a changés. Il nous a donné une nouvelle nature, si bien que les enfants de Dieu peuvent maintenant avoir une bonne influence dans leur communauté. Alors, voilà pourquoi on peut faire du bien dans l'entourage. On est né de l'Esprit. On est différent. Tu es une nouvelle personne. D'ailleurs, l'attitude que Paul privilégie ici dans ce passage, dans le titre, est la même que l'attitude dont il va parler pour les fruits de l'Esprit dans Galates. Vraiment intéressant, lorsque tu compares les deux listes, Paul dit dans Galates 5, 22, il dit, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie. » Ça, c'est le fruit de l'Esprit. La patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ah, imagine-toi, non? Tu ne seras pas content d'avoir un mari qui est rempli de l'Esprit-Saint. Que ton épouse ait tous ces fruits-là, puis que ton mari ait ces fruits-là. Hein? C'est pas super, ça? Amen? Hein, vous avez un petit amen timide, là, ici, là. Hey, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie et la paix. Mon ami, moi, ce matin, par exemple, vous savez, dimanche matin, c'est tough. Tu cours, hein, dimanche matin, puis là, non, on n'a même plus d'enfants. Je me rappelle qu'on avait trois enfants, qu'on mettait des bottes, des manteaux, etc. Moi, on s'en va à l'église. Dimanche matin, c'est un temps là, que tu presses, c'est vite, hein? Tu roules. Ben, dimanche matin, ce matin, on était faire une visite, on était dans un groupe maison cette semaine. Fait que, il y a quelque chose qui s'est passé. Ma femme, ce matin, lorsqu'elle fouille dans ses poches de manteau et tout ça, dans le vestiaire, puis là, on court, on se dépêche, il faut aller à l'église. Fait que là, ma femme, elle cherche ses clés. Elle ne trouve pas ses clés. Fait qu'elle en a cherché ses clés. Fait que là, elle dit, je trouve pas mes clés, normalement, c'est toi qui les as. Je dis, c'est moi qui les as. Je dis, voyons, non, pourquoi c'est moi qui les as? Fait que là, elle cherche les clés, elle cache des clés, puis tout, là, tu sais. Puis je dis, non, c'est toi qui les as. Fait que là, je suis là, mais voyons, pourquoi j'aurais des clés? Puis moi, je me rappelle dans ma tête, j'avais l'image que lorsque les clés étaient dans la voiture, effectivement, des fois, ma femme va aller, elle est plus prête, elle est prête plus vite que moi dans certains cas, fait qu'elle va aller dans la voiture, elle va partir de l'auto. Elle laisse la clé dans l'auto. Fait que c'est vrai qu'effectivement, la clé est là, mais moi, je me rappelais, j'avais une image, un flash dans ma tête que je me rappelle d'avoir enlevé puis d'avoir remis. Je me dis, non, je t'ai donné la clé, chérie, c'est toi qui l'as. Cherche ça dans ta bourse, puis tout ça. Fait que l'attention monte. Puis vous savez, moi aussi, hein? Fait que là, ma femme était là, puis elle était bonne, elle était vraiment bonne, elle était patiente. Mais non, c'est toi qui l'as. Mais je dis, voyons, c'est moi qui l'as. Puis là, j'étais là, je dis, parce que tu ne la trouves pas, c'est moi qui l'as. Fait que hey, là, j'ai fait l'impardonnable. Là, j'ai fait que je suis allé un pas plus loin. Il ne faut pas aller là, les gars. Il ne faut pas que tu traverses. Il y a une ligne que tu ne traverses pas. Tu comprends? Faut pas que tu traverses ça. Moi, je l'ai traversé un matin en m'en venant. J'ai dit, tu parles d'une logique parce que tu trouves pas, c'est moi qui l'ai. Fini, mon ami. Là, non, ça, tu fais pas ça. Non, je te le dis, tu dis pas ça. Ça a une implication que c'est comme je l'avais traité d'illogique. Tu sais, c'est, non, ça n'a pas de, non, normalement, tais-toi. Mais on dirait que c'était plus fort que moi, ça a sorti de même. Ça a sorti. Je regrettais. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire là? Vous savez ce qui s'est passé? Ma femme était bonne. Elle était patiente. Pas dit un mot, rien dit. J'ai dit, mon ami, es-tu bonne? Puis elle était remplie du Saint-Esprit. Là. Vraiment, là, elle avait de la joie, peut-être moins, mais elle avait. Elle n'était pas super joyeuse. Mais elle posait un mot, la maîtrise de soi, elle s'est contrôlée. Moi, je n'ai pas l'air de me contrôler, on aurait dit que. Tu sais, c'est comme. Tu vas arrêter la phrase, elle sort. Je n'ai pas ça que je voulais dire. Fini. Trop tard, t'es parti. T'es où les clés? Fait que là, on cherche, puis tout, voyons, donc, chérie, c'est pas moi qui les a, puis tu dis, voyons, c'est toi qui. Je me rappelle, je te les ai donnés, je me rappelle. J'avais cette vision-là dans la tête, mais je me rappelle d'avoir fait ça. Mais je pense que c'était pas la bonne soirée. Je fouille dans mes poches, puis tout. Mon ami, je donne bien les clés. Comme de fait, j'avais ces clés. J'ai dit, tiens, chérie, j'ai tes clés. Rien dit. Ah, il me semble, moi, j'en aurais profité pour dire, vois-tu, que j'avais raison. Pantoute, elle n'a absolument rien dit. Elle a pris des clés, ça. Parti. Moi, je suis rentré dans la voiture comme ça. Ben, ça va me coûter un lunch, là, c'est ça. Ça va. Fruit de l'esprit. Fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. La bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Regardez bien la liste. Comparez la liste avec le fruit de l'esprit dans Galates 5, puis là, tout d'un coup, vous revenez avec l'attitude que Paul va privilégier envers les inconvertis et à les non-croyants. Puis voici ce qu'il dit, c'est la même liste, dans le fond. Regardez ce qu'il dit dans Tite 3, 1 à 2, il dit, soyez humbles, dans le fond, respectueux envers le gouvernement, puis tout ça, obéissant, faites du bien. Parlant bien des autres. Il dit, parlant bien des autres. Vous savez comment on peut être prompt à critiquer des autres? Bon sang, hein, on évite, on critique. Paul dit, non, regarde, il dit, parle-en bien des autres, fais attention, modéré, plein de douceur envers tout le monde. Alors, on veut maintenant faire du bien à notre entourage, car on a été changé, on a été régénéré par l'Esprit. C'est là qu'il nous emmène, qu'il nous conduit. Oui, il va y avoir des rechutes, comme Normand, le matin avec ses clés. Oui, c'est sûr, mais le Saint-Esprit veut te ramener, toujours te ramener, parce qu'il t'a donné un nouveau cœur, Il n'est pas ressuscité encore, il y a quelque chose là qui est encore là, que j'aimerais bien me débarrasser, que je n'ai pas encore me débarrasser, mais le Saint-Esprit veut te changer, toujours devenir de meilleur en meilleur. Mais ton cœur a été changé complètement. Tu as une nouvelle nature et tu veux poursuivre ça, tu veux t'en lier comme ça, c'est ce que Paul est en train de nous emmener. Fais du bien à ceux qui t'entourent, fais du bien. Alors, nous avons été changés, on a été régénérés par le Saint-Esprit, justifiés, et non seulement ça, tu es même un héritier maintenant. C'est ce que dit le passage, verset 7. Il dit, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Paul dit que ceux qui ont été régénérés par la puissance du Saint-Esprit, ces personnes-là ont été justifiées par Dieu, mais maintenant ils peuvent dormir tranquilles. Ils peuvent être tranquilles parce qu'ils sont des héritiers. Quand on pense à ça, un héritier, c'est quoi? Un héritier, là, c'est quelqu'un qui sait qu'il va recevoir des richesses. Il sait ce qui s'en vient, ça va être super. C'est celui qui sait qu'il ne sera jamais pauvre. L'héritier est celui qui va hériter de tout ce que ses parents possèdent un jour. Et comme héritier, on reçoit un dépôt. Et c'est le Saint-Esprit, nous dit le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament explique dans Éphésiens que le Saint-Esprit qui nous a été donné est une preuve, est un gage, c'est un dépôt, c'est une preuve que ce qui s'en vient, ça va être super. Ça va être merveilleux. C'est comme si on goûte un peu déjà à ce qui s'en vient au ciel, mais 100 fois plus, puis 1000 fois plus au ciel. C'est ce que dit Éphésiens 1. J'ai entendu parler d'un gars cette semaine, 21 ans. Il a reçu un gage de son héritage. Il a reçu un petit héritage, un petit montant, juste parce que ses parents veulent lui montrer, regarde, gars, qu'est-ce qui s'en vient. Et le gars, un petit héritage. Vous savez, c'était combien? 21 millions de dollars. C'est un dépôt. Vous savez quoi? Ce que Paul est en train de dire, elle dit ça, c'est rien, ça. Ça, c'est rien. Nous autres, là, on a la vie éternelle. Savez-vous que César aurait donné toute sa richesse au complet pour avoir la vie éternelle? Nous, on l'a. Ce qui nous attend est d'une valeur inestimable. Ça vaut quoi, la vie éternelle? C'est inestimable. Et Paul est en train de parler du ciel. Il n'est pas en train de parler du ciel là, comme l'époque victorienne, là, avec des anges qui jouent de l'harpe sur des nuages, là. Il est en train de parler du ciel comme en parle l'Apocalypse, où Jésus va essuyer les larmes, où il n'y a plus de tristesse, plus de cancer, plus de maladie au ciel. Ça va être pour l'éternité, dans la joie, dans la perfection même. On va être près de notre Sauveur, on va être actif, on va faire des choses. Ça va être super pour l'éternité. Être héritier, de savoir que tu es héritier, c'est libérateur, ça. Mais maintenant, les enfants de Bill Gates, ils se cassent la tête, eux autres? Ils sont tranquilles. Ils n'ont pas d'anxiété, d'inquiétude de savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Ils sont multimilliardaires. Mais nous autres, on est le fils du grand roi, le roi des rois. Alors, notre coupe déborde et maintenant, on peut également, on est libéré non seulement de l'anxiété, puis de l'inquiétude et tout ça, sachant que nous sommes le fils du grand roi. Mais en plus, maintenant, parce que cette coupe déborde, on est libre aussi maintenant de faire du bien autour de nous autres. On peut servir les autres, on peut donner du temps et aider les autres avec nos talents et notre argent. Un jour, Pierre était vraiment découragé. L'apôtre Pierre était découragé, il est allé voir Jésus et il dit, écoute, on a tout laissé pour toi. On a fait tellement de sacrifices pour toi, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? On a perdu, on perd, on a tout perdu, mon ami. Qu'est-ce qui arrive? Jésus l'a encouragé. Savez-vous ce qu'il a dit? Il n'a fait aucun reproche en passant. Aucun reproche, il ne l'a pas jugé du tout. Voici ce qu'il a dit. Il avait vraiment une belle parole d'encouragement. Il a dit, Jésus lui répondit, « En vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres ou ses maisons, recevra au centuple et héritera la vie éternelle. » En d'autres mots, quels que soient les sacrifices que tu peux faire aujourd'hui parce que tu es un enfant de Dieu, que si le sacrifice pour toi, le sacrifice que tu es en train de faire en ce moment, c'est parce que tu es en train de dire non, je vais me garder pour mon mariage. Et c'est dur parce qu'il y a des gens peut-être autour qui ne comprennent pas, puis tu passes peut-être pour la folle un petit peu, mais tu te tiens, tu dis non, je vais me garder pour mon mariage. Ou c'est peut-être parce que tu es en train de dire à ton copain, ta copine, sais-tu, moi je veux avoir quelqu'un dans ma vie qui aime le Seigneur, puis moi ça me prend un conjoint, quelqu'un, un partenaire qui va aimer le Seigneur, parce que moi je veux un père et une mère qui va, avec moi, ensemble, enseigner nos enfants dans la parole de Dieu, qui va avoir une vie d'église et tout ça. Ce sacrifice que tu fais en ce moment, qui t'oblige peut-être à être célibataire un peu plus longtemps, mais ces sacrifices-là, Jésus est en train de dire, tu vas en avoir 100 fois plus au ciel. Dieu va te bénir les douleurs que tu as eues lorsque tu as fait ces choix-là qui étaient difficiles. Peut-être c'était de perdre des contrats parce que toi, tu veux marcher droite alors que ta compétition fait bien des choses en dessous de la table. Mais je veux que tu saches que ces contrats-là que tu as perdus, cet argent-là que tu as perdu, tous ces sacrifices que tu as refaits dans ta vie maintenant, je veux que tu saches qu'un jour, tu vas avoir 100 fois plus au ciel, tu vas oublier toutes ces douleurs-là, ces sacrifices que tu as refaits, tu vas être dans la joie pour l'éternité. C'est ce que Paul dit, c'est ce que le Seigneur dit à Pierre qui a fait bien les sacrifices, qui avait tout perdu. Mais Jésus est en train de dire, attends-toi, ton avenir, là, dors tranquille, c'est assuré. Tu es un héritier du roi des rois. Je te prépare une place, tu ne peux même pas imaginer ce que ça a l'air. En attendant, fais du bien autour de toi. Parce que le Saint-Esprit t'a changé. Tu n'es même plus le même homme, tu n'es même plus la même femme. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette grâce qui nous a été faite. On ne comprend pas, Seigneur, pourquoi moi, pourquoi pas l'autre? Pourquoi moi, tu as usé de bonté, de miséricorde? Moi qui étais autant, sinon peut-être même plus pécheur que les autres. Mais par ton esprit, ta grâce, tu es venu nous donner une nouvelle naissance. Pour qu'aujourd'hui, on puisse faire du bien autour de nous. Seigneur, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Je pense à ce Hells Angels qui aujourd'hui sert sa communauté, fait du bien à ceux qui l'entourent. Complètement changé par la puissance de transformation du Saint-Esprit. Et Seigneur, c'est ce qu'on veut. On veut s'offrir à toi, on veut faire du bien autour de nous, faire du bien à notre communauté, à notre ville. On veut être de très bons citoyens et des gens autour de nous. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen.